Lisette. Donc, je vous présente M. Rémi Bilodeau. Bonjour, M. Bilodeau.
Bonjour, Eric. Ça va bien?
Oui, vous aussi?
Oui.
Alors, M. Bilodeau, peut-être d'abord nous dire ce que c'est Hackers d'Hommes, qui regroupe, je pense, une trentaine d'organismes.
Oui, Hackers d'Hommes, ça regroupe 30 organismes dans 16 régions administratives du Québec. C'est essentiellement des organismes qui viennent en aide aux hommes qui ont des comportements violents. Mais au fil du temps, les organismes ont quand même développé différents volets. Donc, on a une partie de nos organismes qui interviennent auprès des hommes en difficulté. Il y a aussi des organismes qui interviennent auprès des femmes qui ont des comportements violents. Et on a aussi un organisme, entre autres, qui intervient auprès des hommes abusés sexuellement dans l'enfance. Donc, c'est 30 organismes qui, quand même, regroupent plusieurs volets, là, autres que le volet. Tout le monde a la même, comment je dirais ça, donc le même fil conducteur, c'est la violence conjugale, là, okay. Mais les organismes ont quand même développé des services connexes.
D'accord. Donc, est-ce que c'est des organismes qui se trouvent un peu partout au Québec?
Oui, c'est dans 16 régions. Les seuls endroits où on n'a pas d'organisme, c'est plus au niveau du Nord. Okay. On a accueilli au mois de juin deux nouveaux organismes, entre autres un organisme, Omen Manicouagan, là, sur la Côte-Nord, et l'ACSEM, l'Association canadienne de la santé mentale, Saguenay, qui ont un volet, un programme qu'on appelle Courage, qui vient en aide aux hommes qui ont des comportements violents. Fait qu'on a accueilli ces deux nouveaux membres-là en juin. Ça fait qu'on a quand même une bonne couverture là, de l'ensemble du Québec.
Mm-hmm. Oui. Et puis, on avait entendu, en tout cas, ça, vous avez diffusé un communiqué là, juste avant le début de la campagne électorale, qui était plus précisément le 10 août dernier, qui était en fait pour réagir un peu au plan là, que le gouvernement avait déposé là, justement à ce qui concerne la violence conjugale. Et ce plan, ce que j'ai cru voir, il y avait des parties qui concernent les hommes. Mais bon, ouais. C'était déjà une avancée, mais vous... Je pense qu'ils voulaient que ça allait un peu plus loin.
Oui, bien c'est sûr qu'on aurait voulu effectivement que ça y aille un peu plus loin, puis on aimerait des fois que ça y aille un peu plus vite. Mais bon, on y va un peu par la théorie des petits pas. C'est un plan d'action qui est intéressant. Moi, j'ai comme l'impression que c'est un plan d'action qui va faire la transition entre un petit peu plus d'ouverture, mettons, dans le prochain plan d'action. Okay. Il y a comme une volonté à l'intérieur de ce plan d'action-là de travailler avec les hommes. Et c'est la première fois dans un plan d'action où, puis même dans un document du ministère, là, où on dit explicitement que l'aide apportée aux hommes, ça fait partie de la solution. Mm-hmm. On n'a jamais vu ça. Ça fait qu'on se dit, bon, oh, effectivement, il y a une certaine ouverture. Ouais. Il y a un petit peu plus de mesures dans ce plan-là où nos organismes vont pouvoir aller se faire financer des actions. Okay. Y a quelques avancées comme ça qui sont intéressantes. C'est la première fois que dans un plan d'action, il y a des mesures textuellement que Hackers d'Hommes souhaitait avoir qu'on retrouve dans un plan d'action. Les deux derniers plans d'action, on se limitait à dire ben il faut soutenir les organismes pour conjoints violents, puis il faut bien les financer, mais ça n'avait jamais été plus loin que ça. Fait que pour nous, c'est un peu... on l'accueille avec intérêt, mais on reste quand même réaliste par rapport aux avancées là, qu'on va pouvoir faire avec ce plan-là.
OK. En fin de compte, c'est des directions que le gouvernement veut prendre. Il n'y a pas nécessairement eu d'annonce de montant d'argent précise, là, si je comprends bien.
Bien, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Mm-hmm. Quand on regarde le plan, on se rend compte que effectivement, il nous considère, puis il considère les organismes avec une certaine crédibilité, puis bon, ils disent on veut travailler avec vous. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est que si le financement ne suit pas, ben, on mm-hmm. ne pourra pas répondre à la demande du plan d'action. Là. Okay. Ça fait... trois années que le réseau Hackers d'Hommes reçoit 8 000 hommes. On reçoit à peu près 8000 hommes dans tous les organismes, là, tous les organismes ensemble. Et ça fait 3 ans qu'on en reçoit 8000. On n'est pas capable d'aller plus haut.
OK.
Le réseau a atteint une saturation. Et là, on nous dit, on va vous envoyer des gens, on va vous référer des gens. Il y a des mesures qui sont intéressantes pour prendre en charge les hommes. Mais si le financement ne suit pas, on ne pourra pas répondre à ce besoin-là.
On est obligé de laisser beaucoup d'hommes à ce moment-là sur la liste d'attente où ça tarde. Mais on sait que souvent que les hommes, quand ils expriment au besoin, souvent ça fait déjà un bon bout de temps là, que c'est un problème. Là.
Parce qu'on avait, au mois d'octobre dernier, on avait soumis un communiqué de presse où on disait il y a 742 hommes sur nos listes d'attente. On avait fait le tour de nos organismes, on avait demandé combien vous avez de gens sur vos listes d'attente, et on avait 742 hommes qui étaient en demande de service, qui avaient déjà fait un premier pas, qui voulaient de l'aide et qu'on plaçait sur une liste d'attente. C'est inacceptable.
Et puis, là, c'est sûr que c'était lancé tout juste avant le déclenchement de la campagne. Est-ce que comment vous voyez ça, que va y avoir peut-être un changement de gouvernement ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez approchées déjà, les candidats ou en tout cas les prochains qui feront peut-être prendre la place du gouvernement?
Ben, au printemps, on a rencontré tous les... à venir jusqu'au mois de juin, là, on a rencontré tous les partis politiques. On a présenté nos positions à tous les partis politiques. C'est sûr que c'est un peu frustrant quand on... moi, je fais beaucoup de représentations politiques et tout ça. Et quand on se présente, les gens nous disent que c'est donc important et que oui, vous faites un bon travail. Et ça se traduit pas souvent par des engagements puis des... Fait, tout parti confondu, là. Mais ce qui nous encourage, c'est que le plan, puis je pense que c'était la volonté de la ministre de déposer le plan d'action avant les élections pour garantir une certaine... moi, je pense pas que, même si on change de gouvernement, les gens vont remettre en question les actions du plein et tout ça.
Mais c'est quand même des lignes directives qu'ils donnent à leur ministère, donc c'est déjà là.
Oui, puis le financement aussi, je pense que le financement est budgété et canné, donc effectivement, il y a peu de risques qu'on ait des surprises, même avec un... Puis je pense que c'est un petit peu la volonté là, de la ministre David lorsqu'elle a présenté...
On a parlé beaucoup là de l'événement MeToo, que ça a fait en sorte que les organismes pour femmes ont eu une énorme demande. Est-ce que ça a affecté aussi les organismes pour hommes là?
Effectivement. C'est quelque chose que j'ai ramené justement dans ma tournée politique, on va dire, des partis politiques. C'est ce que je ramenais en disant, ces phénomènes-là ont aussi un incident chez nous. Il y a des hommes qui ont décidé de se prendre en main. Il y a des hommes qui ont décidé de regarder le comportement, de travailler certains aspects de leur comportement suite à l'événement ou en tout cas à la campagne MeToo. C'est souvent, on pense pas là, que ça a de l'influence chez nous. Là. Je me rappelle d'avoir eu une conversation avec Manon Massé à un moment donné, puis elle t'a quand même surprise que ça allait un incident chez nous. Puis effectivement, ça augmente la référence.
OK, parfait. Et puis, justement, là, est-ce qu'il y a une période dans l'année où vous avez l'impression que les demandes sont plus fortes qu'à d'autres moments, ou c'est assez régulier tout le long de l'année?
Je dirais que c'est quand même assez régulier à l'année. Là. Je dirais que à l'époque, puis ça fait quand même quelques années que je ne suis plus sur le plancher, comme on dit, que j'interviens moins directement avec la clientèle. Mais à une certaine époque, après les fêtes, souvent, on voit une recrudescence des demandes. Avant la période de vacances, c'est souvent aussi des temps où on voit les demandes augmenter.
OK. Comment ça fonctionne habituellement? Est-ce que c'est beaucoup du référencement? Est-ce que les hommes sont amenés indirectement parce qu'il s'est passé quelque chose? Ou il y a une bonne partie quand même qui font la démarche eux-mêmes? Là?
Ben, je dirais que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que ça aussi c'est un autre mythe là, des mm-hmm. organismes pour conjoints ayant des comportements violents, on pense souvent que la majorité sont judiciarisés mm-hmm. et que c'est la cour qui oblige les hommes à venir rencontrer nos organismes. Et c'est au niveau provincial, c'est à peu près 33 % de notre clientèle. C'est le tiers.
Ah, okay.
Donc, le reste vient souvent en lien avec une consultation dans un CLSC ou dans un CIUS. Il y en a qui sont référés par la DPJ, mm-hmm. Mais la clientèle judiciarisée représente à peu près le tiers de notre clientèle. Et on a un pourcentage quand même d'hommes qui viennent par eux-mêmes dans nos ressources. Puis ça aussi, souvent, ça... Moi, je dirais ça, les gens, ils ne s'attendent pas à ça. Ils se disent, ben oui, mais ça devrait être du monde entièrement judiciarisé, mais non, c'est vraiment... Ça nous permet aussi, ce qu'on trouve intéressant, c'est que ça nous permet probablement d'agir plus rapidement. Parce que les hommes n'attendent pas un événement là, qui est judiciarisable. Donc, okay. Ils se prennent en main avant. Et ça, c'est intéressant pour nous.
De plus en plus
oui.
comme ça.
Oui.
Peut-être, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, vu que vous êtes moins sur le terrain de ces dernières années, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement de philosophie par rapport à les nouvelles générations? Est-ce que les nouvelles générations vont faire plus la démarche ou il y a quand même encore beaucoup de pas à faire? Hein?
Ben, je dirais que les nouvelles générations, ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils viennent plus rapidement. Ils
okay.
viennent plus jeunes.
Oui.
Ça, c'est sûr. Par contre, ce qui est des fois un peu qui m'interpelle beaucoup, c'est de voir les stéréotypes que les jeunes véhiculent encore.
Mm-hmm.
De l'homme fort, de l'homme mm-hmm. pourvoyeur, de
okay,
l'homme...
c'est encore présent.
Ah, oui, ouais. c'est encore très présent. Puis moi, bon, j'ai une cinquantaine d'années, je me dis, tu sais, bon, j'ai vu mon père qui était plus, on va dire, dans une plus stéréotypée par rapport ouais. au rôle homme-femme, mais ça, on dirait que ça revient. Et moi, des fois, je me dis, où ils ont pris ça?
Ben oui, c'est ça. Ben oui, on ne s'attendrait pas à ça nécessairement aujourd'hui. Ouais.
Mais effectivement. Mais il faut dire, par contre, que notre clientèle est une clientèle qui est... ça ne représente pas l'ensemble des hommes ou l'ensemble de la pensée des hommes. Souvent, mm-hmm. ce qu'on va avoir comme clientèle, c'est des gens très stéréotypés, qui
okay.
ont un rôle très, très préconçu du rôle de l'homme et de la femme. Là. Mais à travers ça, on a quand même des jeunes hommes. Là.
OK. Justement, on parle des jeunes, mais il y a dans vos organismes, si j'ai bien entendu, vous avez des organismes qui aident les hommes aussi qui subissent la violence
oui,
aussi conjugale.
Oui,
ça, est-ce que vous avez remarqué aussi une augmentation de la demande, étant donné ce qui s'est passé ces derniers mois là au niveau de médias?
Ben, ça aussi, ça nous interpelle beaucoup parce qu'on en parle de plus en plus. Et petite parenthèse en lien avec le plan d'action violence conjugale, on y fait mention. Dans les anciens plans, on disait les clientèles immigrantes, les autochtones, les hommes victimes de violence, on disait c'est des clientèles particulières.
OK.
Là, on a fait un effort, je pense, pour être plus inclusif. Et donc, on parle des hommes victimes.
Okay.
C'est encore très timide, on va mm-hmm. le dire, mais il y a quand même des avancées à ce niveau-là. Au niveau de nos organismes, ben c'est comme je disais tantôt, ils ont développé des services en lien avec la demande.
Okay.
Et de plus en plus d'organismes développent ce volet-là.
Okay.
Tu sais, il y a quelques années, on avait 2-3 organismes sur 30.
Mm-hmm.
Là, on est rendu à proche d'une dizaine.
Donc, ils font les deux, autrement dit?
Oui, qui ont un volet pour les hommes en difficulté.
Okay.
Pas pour les hommes en difficulté, pour les hommes victimes de
victimes.
Violence.
Mm-hmm.
Fait que c'est quand même, il y a quand même il y a quand même des gains à ce niveau-là.
D'accord.
Et oui, ça permet, je pense, à des hommes de de le dire, d'en parler, d'être moins, de rester moins avec ça et d'être moins, comment je dirais ça, non, ostracisé parce que, bon, c'est un homme qui est victime de violence.
Oui, oui. Parce qu'on a quand même vu plusieurs personnalités connues, des vedettes, qui ont d'ailleurs fait ce choix-là, là, d'en parler. Donc, ça a sûrement permis là, à des hommes de faire la démarche, eux aussi.
Oui, oui, effectivement. Mm-hmm. Effectivement.
Ben, je vous remercie beaucoup, M. Bilodeau. En tout cas, on va sûrement l'occasion de vous réinviter éventuellement pour dans le domaine de ce que vous travaillez, la violence conjugale. Mais en tout cas, aussitôt que vous avez des nouvelles ou des événements, ben, n'hésitez pas à nous en informer. On en parlera sur nos ondes à ce moment-là.
Ça m'a fait plaisir de briser la glace avec vous
oui,
ce matin.
Oui, effectivement. Plus que briser la glace, c'est briser presque l'équipement. Merci beaucoup.